Radio Live du Livre Drôme.
Un parc d'attractions littéraires
unique en France.
Fait par nous
et pour nous.
C'est qui nous ?
Bah les ados.
Les 18 et 19 juin 2024 à la gare Saint-Sauveur à Lille.
Et sur Radio Moulin.
Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Erta et je suis accompagnée de deux charmantes petites filles très énergiques, à savoir Soline et Iliana, qui ont respectivement 11 ans et 12 ans et qui appartiennent au club de lecture de la médiathèque Jean Lévy. Alors aujourd'hui elles sont venues pour poser des questions à un auteur qui a écrit une série avec une petite fille qui est très exaltée et qu'on aime beaucoup à Jean Lévy, qui s'appelle Astrid Bromure.
Bonjour, moi je m'appelle Fabrice Parme, je suis l'auteur de Astrid Bromure. J'écris et je dessine les aventures d'Astrid.
Vous faites des dessins depuis quand ?
Eh bien, je dessinais avant de savoir parler. C'est-à-dire que mes parents avaient remarqué que quand on me laissait une grosse pile de papier sur une table avec des crayons, j'arrêtais d'escalader les meubles. Je devais avoir à peu près 2 ans. Donc j'ai commencé à dessiner énormément à partir de cet âge-là. Et j'ai pas arrêté de dessiner à peu près tous les jours de ma vie depuis. Ça doit faire 55 ans que je dessine. Donc j'ai commencé tôt.
Vous avez fait d'autres livres qu'Astrid Bromure ?
Oui, Astrid, là je suis en train de faire le tome 9 et le tome 10 d'Astrid. J'en fais deux en même temps. C'est-à-dire que j'avais commencé par faire celui qui va être le 10 avant le 9 et le 9... Enfin, celui qui devait être le 10 va devenir le 9 et le 9 va devenir le 10, voilà. Mais il y aura encore plein d'autres histoires puisque j'en ai encore plein les placards. Mais avant ça, j'avais fait 9 tomes avec un auteur qui s'appelle Lewis Trondheim d'une série qui s'appelait Le Roi Catastrophe. C'était les aventures d'un petit garçon qui était roi et qui régnait sur son pays, qui avait le droit de faire tout ce qu'il voulait et les adultes n'avaient rien le droit de dire du tout parce que c'était lui le roi. Donc forcément, toutes ses décisions se terminaient en catastrophe. Donc il y avait 9 tomes, c'était chez Delcourt. J'ai fait 2 autres albums chez Delcourt, un qui s'appelle Le Jardin Sucré, où c'est une petite fille avec son panda, qui est le doudou d'un panda. Et puis il y avait un autre album qui s'appelait OVNI, qui était les aventures d'extraterrestres qui s'écrasent sur la Terre. Et ça c'est devenu une série de dessins animés pour Canal+, où je crois qu'il y a 104 épisodes de 7 minutes. Et avant ça, j'ai fait... des albums pour les éditions d'Argo, qui s'appellent Venezia, où c'est 2 espions qui se chamaillent à Venise à la Renaissance. Et puis 2 albums adaptés d'une série de dessins animés que j'avais créé pour la télévision, pour France 3 et Gulli, qui s'appelait La Famille Pirate, qui est passée entre 1999 et 2010-2012 à la télévision. Et vous êtes trop petite pour l'avoir vu, mais on peut le voir sur Internet. On peut le voir sur Amazon Prime. Et il y avait une 40aine d'épisodes. Et à l'époque, ça a eu un succès énorme. Et donc, j'avais adapté en bande dessinée avec une autrice qui s'appelle Aude Picot. On avait fait 2 albums de La Famille Pirate pour Dargo. Voilà à peu près ce que j'ai fait en bande dessinée. Et autrement, j'ai illustré un livre pour enfants avec une histoire avec des poux. Et une quinzaine de livres qui s'appelle Les Enfants du Nil, qui est une série écrite par l'écrivain Alain Surget. C'est chez Flammarion, Père Castor, et c'est 3 enfants qui mènent des aventures en Égypte et partout dans le bassin méditerranéen à l'époque de Cléopâtre et Jules César. Voilà. Voilà à peu près tout ce que j'ai fait.
Comment avez-vous trouvé l'inspiration ?
Inspiration pour Astrid Bromure ? Alors Astrid, c'est un personnage qui est né... Donc le premier tome est sorti en 2015, mais en réalité c'est un personnage que j'ai imaginé en 1985, alors que j'étais encore étudiant à Paris dans une école d'art qui s'appelle les Arts Appliqués du Perret, une école supérieure d'art, et elle était dans le centre de Paris, et pas loin de l'école, il y avait Beaubourg, le musée d'art moderne, et il y avait au rez-de-chaussée une librairie où à l'époque, dans les milieux des années 80, il y avait beaucoup de cartes postales qui étaient vendues. Maintenant, on ne trouve plus tellement de cartes postales avant, mais il y avait vraiment une mode de ça. Et en sortant d'un cours de photographie de l'école d'art appliqué, où à l'époque, la photographie, ce n'était pas comme aujourd'hui, un appareil où on appuie, on fait 500 photos. On avait un appareil, on mettait une pellicule et il fallait développer avec des produits chimiques. Il y avait des lampes, il y avait une pièce où on mettait une lumière rouge. Enfin, c'était un truc très, très compliqué. Il fallait des produits chimiques. Et l'un des produits s'appelait l'acide bromhydrique, l'acide de bromure. Donc déjà, il y avait une idée pour le nom qui vient de là. Et donc, en regardant ces cartes postales à la librairie Beaubourg, c'était des petites filles et des petits garçons qui jouaient, c'était des photos en noir et blanc, qui jouaient dans les années 20. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien raconter les aventures d'une petite fille qui se passerait dans les années 20, dans un milieu comme ça, assez bourgeois, etc. Et j'avais cette idée comme ça en tête. Puis j'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai commencé à écrire des histoires. Et les histoires se sont accumulées. Mais j'ai pas trouvé d'éditeur parce que ça correspondait pas à ce qu'il pouvait se faire à l'époque. Donc j'ai continué d'accumuler des tas d'histoires, j'ai inventé plein de personnages, etc. Ça s'est accumulé, puis un jour, l'école des loisirs a créé une maison d'édition pour enfants, pas pour enfants, de bande dessinée, qui s'appelle Rue de Sèvres, et ils m'ont appelé pour me demander si j'avais un projet pour eux. Et l'éditrice, je la connaissais déjà depuis 20 ans, et je lui ai dit, tiens, si je lui propose Astrid, et là, avec l'école des loisirs, je vais pouvoir faire ce que j'imaginais faire il y a déjà 30 ans. Et donc je lui ai proposé, elle m'a dit « Ah ouais, d'accord, je veux le faire, je veux qu'on le fasse. » Et c'est parti comme ça. Et c'est, voilà comment ça a démarré, et voilà comment j'ai imaginé Astrid.
Vous faites d'abord les dessins ou d'abord le texte ?
Je commence toujours par écrire avant de dessiner. Parce que je trouve que si je commence par dessiner des personnages, ils n'auront pas forcément un caractère. Alors que si, c'est-à-dire... J'aurais une belle forme, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette forme ? Alors que si j'écris, c'est le fond, c'est l'idée. Donc je commence par écrire, et puis à force d'écrire, je commence à imaginer comment pourrait être le personnage. Donc c'est d'abord l'écriture, et les images viennent ensuite, toujours ensuite.
Comment trouvez-vous l'inspiration pour chacun des tomes ?
Ah, comment je trouve l'inspiration pour chacun des tomes ? En fait, pour écrire une histoire, le meilleur endroit... C'est pas d'être enfermé chez soi, c'est rarement là, c'est rarement à son bureau que ça se passe. Et là où j'habite, dans le sud, dans la région parisienne, en dessous de Paris, de l'autre côté de ma rue, il y a une forêt. Et tous les jours, je vais me promener en forêt, parce que autrement, je passerai ma journée assis à ma table en train de dessiner. Donc il faut bien que je marche un peu, hein, c'est bon pour le cœur. Donc je vais dans ma forêt, et quand je me promène dans ma forêt, je réfléchis à des histoires. Et comme j'ai rien pour écrire, mon imagination, elle peut se promener. Comme je suis en train de me promener, mon imagination, comme ça, elle se promène, comme ça. Et puis, tous les jours, je me raconte la prochaine histoire que je vais dessiner. Ben, j'ai déjà des morceaux d'histoire, mais je me dis, bon, il faut que je développe cette histoire-là. Et je réfléchis. Et les bonnes idées, je les retiens. Et les mauvaises idées, elles s'évaporent, je les oublie. Et à force de me raconter l'histoire tous les jours, comme ça, en me promenant, je finis par pouvoir me raconter l'histoire en entier. Je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Mais comme c'est pas écrit, j'ai pas peur d'abîmer mon histoire. Parce que quand on commence à écrire une histoire, on tient à ce qu'on a fixé. Alors on n'ose pas le détruire. Alors que si c'est pas écrit, c'est pas grave. C'est pas écrit, ça a le droit de disparaître. Et au bout d'un moment, l'histoire finit par se construire. Je suis capable de la raconter en entier de A à Z. Et donc, à ce moment-là, je rentre chez moi, au bout de quelques semaines, quelques mois et des fois au bout d'un an, et là, je me mets devant mon ordinateur, il ne faut plus qu'on me parle, et j'écris toute l'histoire, et l'histoire sort d'un coup, comme ça.
Et vous avez un personnage préféré dans Astrid Bromur ?
Ah ben, j'aime tous les personnages, c'est comme quand on a des enfants, est-ce qu'on dit « Ah, j'ai un enfant préféré ?» Lui, je l'aime pas, je vais le mettre dans un placard, ça serait pas très gentil, quoi, de faire ça. Non, j'aime tous les personnages, mais ils sont tous complémentaires, c'est-à-dire que quand on crée... Une famille, Astrid, elle a une famille, il y a toujours des personnages qui reviennent, ils ont tous un caractère différent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de creuser le caractère de chacun de ces personnages. Et le personnage, il est intéressant parce qu'il trouve sa place dans un ensemble, et chacun apporte quelque chose de différent à l'histoire. Donc en fait, l'ensemble des personnages crée en réalité un énorme personnage qui est l'auteur en train d'écrire son histoire. Mais j'aime tous les personnages. Je m'amuse avec tous. Même le chien qui dit pas grand-chose, j'aime bien le dessiner, lui faire vivre des petites choses. Ils ont chacun leur psychologie. Et si deux personnages ont la même psychologie, c'est pas intéressant. Il faut vraiment qu'à chaque fois, les personnages aient leur caractère. Et il y a souvent des jumeaux dans Astrid Bromur, dans plein d'albums. Et on remarquera qu'ils ont pas... Il y a un moment où dans le tome 2, où on voit, elle va à l'école et rencontre deux jumelles, elles ont à peu près la même psychologie. Mais quand on prend le tome 7, il y a deux jumeaux, il y en a un qui parle, l'autre qui parle pas. Et petit à petit, je cherche des combinaisons de jumeaux différents pour petit à petit avoir des, même chez les jumeaux, des caractères différents. Donc il faut que chaque personnage trouve sa place. Ça crée un bel ensemble.
Vous pensez créer combien de tomes d'Astrid Beaumur ?
Moi, je pense qu'il y en aura au moins 10. Ensuite, j'ai encore une trentaine d'histoires dans mes tiroirs, ce qui est énorme. Je pense que j'aurai jamais le temps de faire tout ça parce qu'il faudrait que je vive centenaire. J'ai du mal à croire que j'arriverai jusque-là. Et je me demande à un moment si je vais pas faire certaines histoires comme des petits romans illustrés. Je vais peut-être essayer de raconter les aventures d'Astrid autrement. Par exemple, que ce soit elle qui raconte ce qui lui arrive dans sa journée au jeu. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et peut-être même raconter ce qui lui est arrivé à l'école, parce qu'il y a un seul album de bande dessinée à l'école. Et je me disais que ça serait peut-être marrant de faire des livres où elle raconte ce qui lui arrive dans l'école, plein de choses. Elle écrirait à son chat ce qui lui arrive, et puis de temps en temps, le chat lui répond, et peut-être qu'il interviendrait. Et ce serait une autre série, voilà.
Alors pourquoi le chien ne parle pas ?
Parce que c'est un modèle standard, c'est un modèle ordinaire, donc il n'a pas ça en option, il n'a pas la parole en option. Que le chat, lui, c'est un modèle de luxe, alors il a la parole intégrée, ce qui est complètement absurde, mais c'est comme les voitures qui ont des options plus ou moins luxueuses, c'est une absurdité. C'est les produits industriels comme les animaux de compagnie, on a souvent l'impression que ce sont des objets. Alors je rigole avec ça.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Mais c'est moi qui vous remercie.
On est très honorés, on a des étoiles plein des yeux.
Radio Live du Livre Drôme,
à part d'attractions littéraires,
unique en France, fait par nous et pour nous.
C'est qui nous ?
Pas des ados.
Les 18 et 19 juin 2024 à la gare Saint-Sauveur à Lille
et sur Radio Moulin.
On va laisser la parole à un autre auteur, Monsieur Giraud, et qui va être interviewé par Iliana. Bonjour.
Bonjour Iliana.
Bonjour. Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour Croc ?
Justement, vous parliez des animaux de compagnie là, et moi je dis que dans Croc, on a inventé les animaux de compagnie pour leur faire croire qu'on les aime, les animaux, que les adultes sont passés des animaux en peluche quand ils sont petits aux animaux vivants quand ils sont grands, et puis ils les aiment, ils leur font des bisous. Et puis, ils ont le droit à plein d'égards à la maison. Or, si on aimait vraiment les animaux, on ferait attention à tous les animaux, y compris les lézards, les grenouilles, les tigres qui vivent dans la savane, et même les serpents dont on a peur. Les animaux, c'est pas que les chiens, les caniches et les gentils minous qu'on a à la maison. Il faut les aimer tous, ou pas. Et je crois que les hommes n'aiment pas vraiment les animaux, sinon ils les respecteraient davantage, ils feraient davantage attention à eux. Vous avez entendu parler de l'extinction animale ? Vous savez qu'il y a des animaux qui disparaissent. Voilà. Ouais. C'est inquiétant.
Pourquoi avez-vous choisi le tigre pour ce livre ?
Parce que les tigres, il y a davantage de tigres qui sont captifs, qui vivent dans des zoos ou chez des gens, que de tigres en liberté aujourd'hui sur Terre. Et le tigre, c'est un animal qui est exploité, notamment en Asie, parce qu'il a plein de vertus médicinales, supposées. Avec les dents, on fait je sais pas quoi. Avec les poils des oreilles, on fait autre chose. Avec les griffes, on fait des choses. Avec la peau, on fait des manteaux ou des tapis. En fait, un tigre mort rapporte quelque chose comme 25 000 euros, un beau tigre. Alors qu'un tigre vivant, ça s'achète 15 000 euros. Il y a des marchés, enfin, je dis ça à des enfants, mais on peut acheter facilement un tigre au marché noir, des tigres.
Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour tous les prénoms ?
Pour trouver le nom de Croc ? Moi, j'avais envie de... Ça, c'est facile à trouver, Croc. Je ne me suis pas beaucoup fatigué. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour montrer que le jeune garçon, qui est, entre guillemets, propriétaire, il n'est pas propriétaire, justement, il le dit, d'ailleurs. Il l'aime beaucoup, il est très attaché à ce tigre. Et il est tellement attaché à lui qu'il a voulu lui mettre deux majuscules. Une au début, une à la fin. Il y a un K majuscule au début, un K majuscule à la fin. Ça, c'est un signe, une grande preuve d'amour. C'est ça, d'avoir trouvé ça, j'étais assez content. D'avoir trouvé le nom de Croc, bon bah, ouais. À part que ça ressemble à des noms de chaussures que certains mettent pour aller à la plage ou au supermarché. Personnellement, je n'en mets pas. J'ai de la distinction.
D'après vous, ce sont les humains ou les animaux les plus sauvages ?
Clairement, c'est pas la même forme de sauvagerie. Hein. Nous, on a arrêté de se manger entre nous. Les animaux, s'ils sont sauvages, c'est parce qu'ils ont besoin de survie. Il faut savoir qu'un un papa à lion, il mange les lionceaux qui viennent de naître parce que les lions ont besoin d'un grand territoire pour vivre, pour s'alimenter. Et si la maman lion, donc la lionne, produit trop d'enfants, sachant qu'ils vont grandir très vite et qu'ils vont exploiter aussi le territoire, le papa n'aura plus de quoi se nourrir, il ne pourra plus survivre. Donc il faut qu'il élimine une partie de la portée. Donc la plupart des bébés lionceaux qui meurent sont tués par leur propre père. Donc on peut dire que les lions sont quand même très sauvages. Nous, on ne fait pas ça, les humains. Mais on a une autre forme de sauvagerie. Voilà, on peut être violent, avoir des armes, se tuer, faire des guerres, rouler trop vite, pas faire attention aux autres. Voilà, mépriser les plus petits, ceux qu'on n'aime pas, parce que c'est du mépris. C'est dangereux, c'est de la sauvagerie. Mais c'est une sauvagerie un peu élaborée, parce que voilà, l'homme est quelqu'un un animal élaboré.
Est-ce que vous avez voulu dénoncer le commerce d'animaux ?
Oui, le commerce des tigres, puis toutes les exploitations d'animaux qu'on fait et qui ne sont pas franchement utiles. Parce qu'on sait très bien que le tigre n'a aucune vertu médicinale. Oui. Et ça ne sert à rien d'avoir un... Enfin, maintenant, il y a moins de manteaux des manteaux de fourrure. Quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, on tuait les bébés phoques sur la banquise. Et d'ailleurs, j'avais fait un premier prix de récitation, enfin de poésie à l'école élémentaire, parce que j'avais raconté pour la fête des mères une histoire de bébé phoque assassiné par des chasseurs, mais que leur mère venait sauver en essayant de tuer les chasseurs et en mourant elle-même, en se sacrifiant pour ses enfants. J'avais gagné le premier prix de la poésie de la fête des mères au Péreux. C'est une histoire assez tragique. Et quand les gens la lisaient, ma poésie, ma maîtresse d'école, Mademoiselle Paul, elle avait pleuré. Et je me suis dit, waouh, c'est peut-être pour ça que je suis devenu auteur un jour, pour faire pleurer les filles.
Ouais. Avez-vous fait d'autres livres ?
Oh oui, j'en ai fait plein.
Comptez-vous créer d'autres livres ?
C'est... ça va... Aussi longtemps que je vivrai, je crois que j'inventerai des histoires, donc je les mettrai en mots pour pas qu'elles s'oublient. Mais ouais, je pense que j'en ferai d'autres.
Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour tous ces textes ?
En réfléchissant, au feu rouge, en voiture, dans le train, quand il y a le paysage qui défile, en regardant un feu de bois ou la mer qui déferle comme ça. En fait, en méditant, on va dire. En pensant à des trucs, en regardant les gens, en lisant le journal, en regardant la télé, en lisant des mangas ou des BD, ou en parlant avec des inconnus dans la rue, en m'intéressant à un chien mouillé, perdu, qui n'a pas de parents. Enfin, qu'il n'y a pas de parents, qu'il n'y a pas de maison, en me disant, mais oui, il vient d'où, il va où, où est-ce qu'il va dormir. Voilà, en regardant le monde autour de moi, on trouve l'inspiration tout de suite.
Ouais. C'est-à-dire, il dit, notre cher ami dit la même chose que moi, c'est que les histoires, on ne les trouve pas à sa table en écrivant. C'est en sortant de chez soi, en allant dans le monde qu'on les trouve. À la rigueur, chez soi, c'est quand on est dans sa baignoire en train de se laver, et puis d'un seul coup, on a une idée, mais c'est rarement à table. Et il confirme ce que je dis, c'est vraiment en rencontrant des gens, en se promenant, en regardant ce qui se passe, que les meilleures idées se trouvent.
Ouais. Et tu vois, là tout à l'heure, tu parlais de Bourmure, c'est quoi le prénom ? Astrid Bourmure. Astrid Bourmure. Je suis en train d'écrire un petit livre, et je me dis, ça c'est marrant, il écrit une histoire de fille. Ouais. T'es un garçon, toi.
Oui.
Et ton personnage, c'est une fille. Et j'écris quelque chose en ce moment, c'est une histoire que je démarre, c'est un petit garçon. Et quand j'écris... un petit garçon, je suis ce petit garçon. Et je me dis, ah, c'est chouette aussi d'être une fille. Parce que, voilà. Mais je me suis dit, tiens, il a raison, Fabrice. Je vais changer mon personnage, je vais l'appeler Aglaé. Parce que c'est un prénom que j'aime bien. Et puis, ça va être une fille. Et puis, en même temps que je t'écoutais, des idées me sont venues. Ouais, ouais. Je me suis dit, cette petite fille, elle est torse nu. Et elle veut pas mettre de soutien-gorge. Alors, je vais expliquer ça, parce qu'elle elle a 8 ans. À 8 ans, on n'a pas besoin de mettre un soutien-gorge quand c'est l'été qui fait chaud. Et sa mère dit, mais tu devrais mettre un soutien-gorge. Elle dit, les garçons, ils n'en mettent pas, pourquoi j'en mettrais ? J'ai pensé tout ça en l'espace de ton espèce de subconscient quand je t'écoutais parler. Tu vois, ça vient comme ça. Et du coup, quand je vais partir ici, je vais le noter dans le train. Bon, elle change tout, elle s'appelle Aglaé. Puis je mets cette histoire de soutien-gorge, c'est assez rigolo, quoi. Parler du genre.
Mais ça peut très bien être une petite fille, comme ça peut être un petit garçon, de la même façon que Lewis Carroll avait choisi Alice pour raconter une histoire. On pourrait, par exemple, Marc Boutavant et Colas Gutmann ont créé Chien pourri, ils sont pas des chiens pour autant, quoi. un personnage, c'est un personnage. Et de toute façon, même si c'est une petite fille, Astrid, il y a aussi le fait que son caractère, je me suis beaucoup imprégné de ma propre fille quand elle avait 8-10 ans. Je l'ai regardée vivre, grandir, etc. Et quand je raconte les aventures d'Astrid, je me dis, dans telle situation, qu'est-ce que ma fille, comment elle aurait réagi à 8-9 ans à telle situation ? Donc c'est encore la même chose, c'est qu'on s'inspire de tout ce qu'il y a et de tout ce qu'on entend autour de soi. Donc elle peut très bien s'appeler Aglaé et devenir une petite fille, il n'y a pas de raison.
Exactement. Et puis en plus, peut-être que je vais changer d'avis d'ici tout à l'heure, parce qu'en sortant d'ici, j'aurai rencontré quelque chose, j'aurai vu quelque chose qui m'aura inspiré une suite ou un autre récit. Ça s'appelle l'imagination, je crois qu'on appelle ça l'imagination. Mais c'est pas vraiment de l'imagination, c'est autre chose, c'est une espèce de cuisine qu'on a dans la tête.
Ouais. Il y a un mot pour ça, c'est de la sérendipité.
Ah bah je le connaissais pas,
voilà.
Tu vois,
voilà. C'est-à-dire qu'on progresse comme ça en avançant sans trop savoir où on va, et c'est comme ça que parfois des inventions, des choses ont été découvertes par hasard. C'est en avançant comme ça par hasard. Et c'est ce qui se fait pour des inventions, se fait aussi pour des idées, pour des livres.
Ça marche aussi en musique, il y avait un batteur qui disait « quand je me plante », en musique on dit qu'on se plante, c'est qu'il n'arrive pas, il perd le rythme, il dit « c'est pas grave, les autres y suivent et ça crée un nouveau morceau ». C'est Sam Shepard qui disait ça,
oui.
Il était batteur, mais assez mauvais batteur. Pas grave, quand je me plante, ça crée une autre musique. Neil Young dit un peu la même chose, il dit je chante à peu près la note, mais paraît-il que c'est ce qui me donne un style.
Moi, j'avais juste une question. Je voudrais savoir si vous lisez les romans l'un de l'autre. Ou est-ce que ça vous arrive et qu'est-ce que vous en pensez?
Non.
Non.
Parce qu'on ne se connaissait pas avant, mais maintenant, on va se lire.
Évidemment.
Mais effectivement, on lit les romans et les œuvres des autres. Et des fois, on est jaloux de leurs bonnes idées. Et puis, des fois, ça crée une forme d'émulation. On se dit, c'est chouette. Voilà, des inventeurs. Il y a Joanne Gaëlle là-bas. Elle passe là-bas, elle vient de disparaître. Elle écrit très très bien. Pour les enfants de 9-10 ans, elle est beaucoup plus douée que moi. Et quand je vois comment elle s'y prend, parce que moi je vois bien les techniques, je me dis waouh, Anne Gaëlle, elle est quand même balèze. Il y a une sorte d'affection. Peut-être que c'est. Mais la jalousie, ça a du bon aussi. C'est moteur.
C'est un moteur, c'est motivant, mais c'est pas que des auteurs vivants aussi qu'on lit comme ça. On a aussi, moi, chez moi, j'ai des piles de livres que j'ai pas encore lus. C'est-à-dire, il y a des tas de livres que j'ai achetés, que j'ai réunis. Et puis, je me dis, ça faudra que je lise. Puis, j'ai pas le temps, etc. Puis, un jour, j'ai le temps et je les lis. Mais il y a toujours énormément de livres. Et je pense que pour faire des livres, il faut aussi en lire beaucoup. C'est pas juste faire ses livres à soi. Et en regardant les autres, comment ils font, déjà, on se dit, tiens, c'est marrant, je ferais pas ça comme ça, mais j'aime bien comment c'est fait. Mais jamais je le ferais de cette manière-là. Mais on se dit, tiens, il y a une idée là-dedans, si moi je devais le faire, je le ferais autrement. Et ça provoque aussi des idées, quoi.
Ouais, on parle d'intertextualité. Quand on lit inconsciemment, on s'abreuve de plein de styles, plein de façons d'écrire. Et ça ressort.
Ouais. Alors moi, j'ai une toute
dernière... Sans faire de plagiat, hein. Ouais.
J'ai une toute dernière question, c'est que avec Croc, j'appartiens à l'ancienne génération, mais je peux pas m'empêcher de penser à Calvin et Hobbes. Alors, est-ce que c'est un challenge de faire quelque chose qui n'a pas encore été écrit ou de renouveler un genre? Est-ce que c'est quelque chose de stimulant? Est-ce que c'est difficile?
En fait, c'est un peu comme le jazz, il y a des thèmes, hein, et chacun l'interprète à sa façon. On n'est même pas obligé de se dire je vais jouer un thème, on peut inventer sa propre musique, mais on peut reprendre un thème. Alors il y a des thèmes qui sont très récurrents en littérature jeunesse, je pense au harcèlement, les migrants, les machins. Moi j'y vais pas parce que justement c'est des thèmes qui sont trop récurrents. Mais si on parle d'amour, forcément le thème il a déjà été exploité et surexploité, et pourtant on arrive toujours à inventer une nouvelle façon de le dire, de parler de l'amour. Et ben voilà, c'est ça, il n'y a pas de plagiat, chacun il met sa propre singularité. Et c'est ce que je recommande aux jeunes qui veulent écrire, c'est qu'avant d'être publié, de faire de passer dans la moulinette du darwinisme des sélections des éditeurs, il faut vraiment avoir une écriture singulière, une parole à dire, être à la fois avoir ce petit grain de folie qui permet d'aller dans la nouveauté, mais pas non plus rester dans le conventionnel pour être ennuyeux. Il faut être tout le temps entre les deux. Allez, non, ça, hein, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais aller exploiter sa propre folie, mais pas trop, mais pas assez non plus. Il y a une espèce de curseur à mettre au bon endroit. Et ça demande beaucoup de pratique préalable, comme en musique, comme dans, en peinture, comme dans toutes les formes d'expression. Fabrice.
Oui, mais c'est vrai que si c'est trop fou ce qu'on fait, si c'est trop délirant, tout le monde va décrocher parce qu'on ne pourra pas se référer. On va se dire de quoi il parle, je comprends rien, puis on va décrocher. Donc on est toujours obligé de se référer, comme il dit, à des thèmes. Et les thèmes, il y en a quoi, 36 et toute l'histoire de la littérature depuis Homère raconte les mêmes choses. Et comme il dit, c'est le ton, c'est la texture qu'un auteur apporte qui fait cette différence. Et cette texture est née aussi de l'époque dans laquelle on est, qui fait qu'on ne va pas raconter les choses de la même manière aujourd'hui qu'on les racontait il y a 20, 30, 50, 100 ans, 200 ans. Donc en fait, c'est toujours à réinventer, à réadapter. Mais quand on regarde véritablement toutes les histoires et qu'on essaye de les résumer en quelques lignes, on se dit « Ah bah ça, c'est l'éternel retour, ça, c'est ceci, cela », et on l'a déjà vu. Après, il y a l'assemblage de ça. On peut prendre plusieurs thèmes, les assembler, ça crée quelque chose de nouveau. Mais faut pas avoir cette idée qu'on va trouver l'idée qui n'a jamais été faite. Ça n'existe pas. Même quand on prend Frankenstein, Shelley, c'est des créatures comme ça, il y en a déjà eu avant elle. Il y a déjà le golem, il y a déjà des tas de personnages qui ont existé où ça raconte à peu près la même chose sur des siècles. Pendant des siècles, on a raconté la même chose. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait avec la façon de penser de son temps, le romantisme anglais, etc., etc. Et maintenant, si on devait reprendre ce thème-là, on pourrait encore le faire autrement. Ce que Tim Burton fait, c'est encore ça. Quand il crée Édouard aux mains d'argent, le personnage d'Édouard, c'est encore une sorte de Frankenstein moderne. Donc c'est toujours des choses qu'on a déjà vues, mais pas vues de cette manière-là, en fait. Pas lues, pas perçues de cette manière. C'est pareil comme en musique, où c'est toujours les mêmes choses, mais finalement, chaque époque, il y a des nouvelles inventions qui font qu'on n'aura pas un son qui est de la même qualité, on n'aura pas le même rythme, pas la même façon de poser la voix, et ça va créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce que chaque artiste va créer, quoi.
Du coup, on pourra peut-être voir une Astrid Bromure du futur.
Hashtag Astrid Bromure
peut-être,
de base.
Peut-être. Pourquoi pas.
Merci.
Vous faites
beaucoup.
Part d'autres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Les enfants.
Ouais.
Radio Live du Livre Drôme,
un parc d'attractions littéraires
unique en France,
fait par nous
et pour nous.
C'est qui nous ?
Pas les ados.
Les 18 et 19 juin 2024 à la gare Saint-Sauveur à Lille
et sur Radio Moulin.